Lettre 296 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Au Rocher, mercredi 12 octobre 1689. Les voilà toutes deux. Mais mon Dieu, que la première m'aurait donné de violentes inquiétudes si je l'avais reçue sans la seconde, où il paraît que la fièvre de ce pauvre chevalier s'est relâchée et lui a donné un jour de repos. Cela ôte l'horreur d'une fièvre continue, avec des redoublements et des suffocations, et des rêveries et des assoupissements qui composent une terrible maladie. Quel sang, quel tempérament, quelle cruelle humeur dégoûte s'est jetée dans tout cela! Quelle pitié que ce sang si bouillant, qui fait de si belles choses, en fasse quelquefois de si mauvaises et rende inutiles les autres! Enfin, voilà une grande tristesse pour vous tous, et pour vous particulièrement, dont le bon cœur vous rend la garde de tous ceux que vous aimez. Me voilà encore bien plus avec vous à Grignan, quoique j'y fusse beaucoup, par le redoublement d'intérêt que j'y prends depuis cette maladie. On est exposé, quand on est loin, à écrire d'étranges sottises. Elles le deviennent en arrivant mal à propos. On est triste, on est occupé, on est en peine. Une lettre de Bretagne se présente, toute libre, toute gaillarde, chargée de 1000 détails inutiles. J'en suis honteuse, mais je vous l'ai dit 100 fois, ce sont les contretemps de l'éloignement. Je vous ai mandé, comme je ne suis plus du tout fâchée, contre monsieur et madame de Chaune. Il est certain, et mes amis me l'ont mandé, qu'il ne pouvait parler des affaires de Bretagne sans prendre fort mal son temps. Il recommanda mon fils à monsieur de Lavardin, croyant qu'il aurait la même envie que lui de nous servir, et cela était vrai. Il a depuis écrit à monsieur le maréchal d'Étrée, et cette lettre ferait son effet si le roi n'avait dit tout haut à tous les prétendants à cette députation qu'il y avait longtemps qu'il était engagé. Madame de Lafayette me le mande sans me dire à qui. On le saura bientôt. Elle m'ajoute que monsieur du Croissy a nommé mon fils au roi, qui ne marqua nulle répugnance à cette proposition, mais que le même jour, sa majesté se déclara. Et voilà ce qu'attendait le maréchal, qui se soucie fort peu que le gouverneur de Bretagne perde ce beau droit, pourvu qu'il fasse sa cour. Madame de Lafayette lui a rendu tous ses engagements, et l'affaire finit ainsi. Mon fils est à Rennes, agréable au maréchal, qu'il connaît fort, et qu'il a vu 100 fois chez la marquise d'Uxelles, contestant hardiment Rouville. Il joue tous les soirs avec lui au tric-trac. Il attend monsieur de la Trémouille afin de lui rendre tous ses devoirs et puis revenir ici avec sa femme. C'est le plus honnête parti qu'il puisse prendre. Je suis encore seule, je ne m'en trouve point mal. J'aurai demain cette femme de Vitré. Elle avait des affaires. Il faut que je vous conte que madame de Lafayette m'écrit, du ton d'un arrêt du conseil d'en haut, de sa part premièrement, puis de celle de madame de Chaune et de madame de Lavardin, me menaçant de ne me plus aimer si je refuse de retourner tout à l'heure à Paris, et me disant que je serai malade ici, que je mourrai, que mon esprit baissera. Qu'enfin, point de raisonnement, il faut venir, et qu'elle ne lira seulement pas mes méchantes raisons. Ma fille, cela est d'une vivacité et d'une amitié qui m'a fait plaisir. Et puis elle continue, voici les moyens. J'irai à Malicorne avec l'équipage de mon fils. Madame de Chaune y fait trouver celui de monsieur le duc de Chaune. J'arriverai à Paris, je logerai chez cette duchesse, je n'achèterai 2 chevaux que ce printemps. Et voici le beau, je trouverai 1000 écus chez moi de quelqu'un qui n'en a que faire, qui me les prête sans intérêt, qui ne me pressera point de les rendre, et que je parte tout à l'heure. Cette lettre est longue au sortir d'un accès de fièvre. J'y réponds aussi avec reconnaissance, mais en badinant, l'assurant que je ne m'ennuierai que médiocrement avec mon fils, sa femme, des livres et l'espérance de me mettre en état de retourner cet été à Paris sans être logé hors de chez moi, sans avoir besoin d'équipage parce que j'en aurai un et sans devoir 1000 écus à un généreux ami dont la belle âme et le beau procédé me presseraient plus que tous les sergents du monde. Qu'au reste, je lui donne ma parole de n'être point malade, de ne point vieillir, de ne point radoter, et qu'elle m'aimera toujours malgré sa menace. Voilà comme j'ai répondu à ces 3 bonnes amies. Je vous montrerai quelque jour cette lettre de madame de Lafayette. Mon Dieu, la belle proposition de n'être plus chez moi, d'être dépendante, de n'avoir point d'équipage et de devoir 1000 écus. En vérité, ma chère enfant, j'aime bien mieux sans comparaison être ici. L'horreur de l'hiver à la campagne n'est que de loin. De près, ce n'est pas le même. Mandez-moi si vous ne m'approuvez point. Si vous étiez à Paris, ah, ce serait une raison étranglante. Mais vous n'y êtes point. J'ai pris mon temps et mes mesures là-dessus. Et si, par miracle, vous y voliez présentement comme un oiseau, je ne sais si ma raison ne prierait point la vôtre, avec la permission de notre amitié, de me laisser achever cet hiver certains petits paiements qui feront le repos de ma vie. Je n'ai pu m'empêcher de vous conter cette bagatelle, espérant qu'elle n'arrivera point mal à propos et que monsieur le chevalier se portera aussi bien que je le souhaite. J'ai été surprise de votre songe. Vous le croyez en mensonge parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas un seul arbre devant cette porte. Cela vous fait rire, il n'y a rien de si vrai. Mon fils les fit tous, je dis tous, couper il y a 2 ans. Il se pique de belle vue, tout comme vous l'avez songé, et à tel point qu'il veut faire un mur d'appui dans son parterre et mettre le jeu de pommes en boulingrin, ne laisser que le chemin et faire encore là un fossé et un petit mur. Il est vrai que si cela s'exécute, ce sera une très agréable chose et qui fera une beauté surprenante dans ce parterre qui est tout à fait sur le dessin de monsieur le nôtre et tout plein d'orangers dans cette place Coulanges. Vous deviez avoir vu cet avenir dans votre songe puisque vous y avez vu le passé. Je garde vos lettres et votre songe à mon fils et à sa femme qui seront ravis d'y avoir vos aimables amitiés. Je ne suis point du tout mal avec monsieur et madame de Pontchartrain. Je les ai vus à Paris depuis que vous êtes partis. Je leur ai écrit à tous deux. Le mari m'a déjà répondu et à mon fils très agréablement. Je n'ai rien du tout de marqué à leur égard, car ce n'est pas un crime d'être ami de nos gouverneurs. Je rends au double toutes les amitiés de mon cher comte. Je salue et honore le sage Lagarde. Je donne un baiser à Pauline et mon cœur à ma chère bonne. Dieu guérisse, monsieur le chevalier, et que cette lettre vous trouve tous en joie et en santé. Dites-moi la chambre du chevalier, afin que j'y sois avec vous. L'abbé Bigorre me mande que monsieur de Niel tomba l'autre jour dans la chambre du roi. Il se fit une contusion. Félix le saigna et lui coupa l'artère. Il fallut lui faire à l'instant la grande opération. Monsieur de Grignan, qu'en dites-vous? Je ne sais lequel je plains le plus, ou de celui qui l'a souffert, ou d'un premier chirurgien du roi qui pique une artère.